Télé de navire de patrouille offshore, patrouillateur polyvalent d'Altura, était nommé respectivement KRI Brawijaya 320 et KRI Prabu Siliwangi 321. Le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral TNI Muhammad Ali, lors de son discours de bienvenue au chantier naval Fincantieri Muggiano en Italie, a expliqué que les noms choisis étaient un symbole d'espoir et de détermination à défendre la souveraineté et l'honneur de la nation tout au long des océans du monde. Muhammad Ali a souligné que la présence des deux navires italiens serait non seulement partie de la flotte de la marine indonésienne, mais constituerait également une étape importante dans la modernisation des équipements de défense afin de maintenir la souveraineté et la sécurité du pays. Au total, 11 représentants indonésiens sont prêts à concourir pour des billets pour les demi-finales du tournoi BWF Super 300 Thailand Master. Lors des huitièmes de finale, Alwi Farhan était le seul représentant indonésien dans le secteur du simple masculin. Dans le secteur du simple féminin, l'Indonésie a placé deux représentants, à savoir Putri Kusuma Wardani et Komang Ayu Cahya Dewi. Putri, la troisième tête de série de ce tournoi, affrontera la représentante hôte et septième tête de série, Pon Picha Choi Kewang. Pendant ce temps, Komang Ayu, huitième tête de série, a été défiée par un autre représentant hôte, Pichamon Opatniput, lors du match d'aujourd'hui. Dans le secteur du double masculin, la première tête de série, Leo Roli Kanando, Bagas Maulana, rencontrera une nouvelle paire sud-coréenne, Jin Yong et Seo Sung Jae. Pendant ce temps, le deuxième tête de série, Muhammad Sohibul Fikri et Daniel Martin, affronteront les huitièmes têtes de série indienne, Prutvi Krishnamurti Roy et Sai Pratik K, en quart de finale. Le ministre de l'Investissement et de l'Aval, ou chef du Conseil de coordination des investissements, Rosan Ruslani, continue de promouvoir les opportunités d'investissement dans la capitale de Nusantara, ou en indonésien abrégé en IKN, dans le Kalimantan de l'Est auprès des investisseurs étrangers. Rosana Jakarta a déclaré que l'investissement dans la capitale de Nusantara est à long terme, étant donné que la construction de nouvelle capitale prend beaucoup de temps, environ 25 à 30 ans. En dehors de cela, le développement d'IKN s'inscrit également dans la perspective d'une ville forestière intelligente où IKN devient une ville propre et respectueuse de l'environnement en termes d'énergie, d'infrastructure, etc. Selon Rosan, l'intérêt des investisseurs étrangers pour investir dans IKN existe déjà, comme en témoignent les entreprises singapouriennes qui investissent dans des panneaux solaires dans l'archipel du Kalimantan de l'Est. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée PME attire l'attention des participants au Forum économique mondial 2025 en Suisse, avec Maudry. Sociétaire le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, est depuis longtemps l'un des principaux piliers de l'économie indonésienne. Sous la direction du président Prabowo Subianto, le gouvernement s'est engagé à faire des MPME la force motrice de l'économie. Lors de l'inauguration du cabinet rouge et blanc, le président Prabowo a déclaré qu'il avait une grande vision pour aider les MPME à progresser dans la classe, notamment en devenant international. Il existe une entreprise MPME de Bandung qui a réussi à attirer l'attention du monde entier lors du Forum économique mondial WEF 2025 qui s'est tenu à Davos, en Suisse. Avec ses produits de qualité supérieure, les chips de bœuf, rendang et de rendang au bœuf, le MKM Restumande qui sert de la nourriture au pavillon indonésien, a reçu un accueil chaleureux de la part des visiteurs en raison de son goût délicieux et authentique. Selon Ishda Ramadanti, directrice du développement commercial de Restu Mande, en plus d'offrir des saveurs authentiques riches en épices, Restu Mande a un autre avantage, avoir une certification complète de qualité alimentaire. Il a même réussi à répondre aux normes et à la certification de la Food and Drug Administration, FDA, des États-Unis, ce qui est très difficile à obtenir. De plus, cette PME a également obtenu diverses certifications allant de la certification halal par le Conseil indonésien des ulémas, à l'Agence indonésienne de surveillance des aliments et des médicaments, en passant par la déclaration de certification des bonnes pratiques de fabrication et la certification des points critiques d'analyse des risques. Doté d'une certification complète, cette EMKM basée à Bandung se développe sur le marché international. Actuellement, ces produits sont entrés avec succès sur les marchés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Qatar, d'Australie et de Singapour. Un autre point intéressant est que cette PME ne se concentre pas uniquement sur le profit, mais crée également un impact positif sur la communauté locale. Entre autres choses, en ouvrant des opportunités d'emploi aux femmes au foyer avec des horaires de travail flexibles et en travaillant avec les agriculteurs locaux autour de Bandung, Java occidentale, pour garantir qu'ils obtiennent des matières premières de qualité. Cela s'inscrit certainement dans le troisième idéal du programme Astachita du président Prabowo Subianto, c'est-à-dire 8 missions, à savoir accroître les opportunités d'emploi de qualité, encourager l'entrepreneuriat, développer l'industrie créative et poursuivre le développement des infrastructures. À l'avenir, on espère que les micro, petites et moyennes entreprises pourront véritablement jouer un rôle de pilier de l'économie nationale. Bonjour, Chouetar, c'est tout. Le commentaire.
chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'avènement du 1er février 1979. Ayatollah Khomeini est retourné en Iran. Ayatollah Khomeini est un chef religieux et homme politique islamique chiite iranien. Le 1er février 1979, Ayatollah Khomeini rentre triomphalement en Iran après 15 ans d'exil en France par le gouvernement du Shah. Le retour de Khomeini est intervenu 2 semaines après que le Shah et sa famille ont quitté le pays et que la révolution islamique qui a conduit à un gouvernement fondamentaliste sous la direction de Khomeini s'est installé en Iran. Il est devenu le leader de la révolution iranienne de 1979 qui a témoigné le renversement du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Après la révolution, Khomeini est devenu le guide suprême du pays. Passons maintenant à l'événement du 1er février 2003, la navette spatiale Columbia a explosé. La navette spatiale Columbia appartenant aux États-Unis a explosé dans le ciel lorsqu'elle atterrirait au centre de la station spatiale Kennedy en Floride le 1er février 2003. 7 astronautes ont été tués. L'officiel de l'Agence spatiale nationale américaine, NASA, a mentionné l'accident survenu lorsque la navette spatiale construite en 1981 se trouvait à une altitude de 60 000 pieds de la Terre à une vitesse de 20 000 km par heure. La catastrophe de Columbia s'est produite lorsqu'un morceau de mousse de la taille d'un sac a heurté l'aile de l'avion et a laissé un trou dans la dalle de protection, rendant l'avion vulnérable lors de sa pénétration dans l'atmosphère. Avant d'exploser, la navette venait de terminer sa 28e mission après avoir décollé le 16 janvier 2003. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er février 1992. L'UNESCO a désigné le parc national de Junkulon comme site de patrimoine mondial naturel. Le parc national de Junkulon est un parc national situé dans la province de Banten qui couvre les zones des sous-districts de Sumur et de Chimangu, la résidence de Pandeglang. La Commission du patrimoine mondial de l'UNESCO a désigné le parc national de Junkulon comme site naturel du patrimoine mondial le 1er février 1992. L'un des privilèges du parc national de Junkulon est d'être un habitat naturel pour les rhinocéros de Java et gibbons javanais en voie de disparition. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Jagamu, akulah pelindungmu. siapa kalah kamu. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu. Kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu ada hidupku. Kau sentuh cintaku dengan nunggu dengan sejuta.
Chers auditeurs, c'est la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « Le ministère de l'énergie et des ressources minérales estime que l'Indonésie est capable de passer aux énergies renouvelables ». Un expert du ministère de l'énergie et des ressources minérales, ESDM, Satya Hangayuda, a déclaré que l'Indonésie est capable de passer des combustibles fossiles aux énergies nouvelles et renouvelables, EBT, garantissant l'existence d'objectifs d'émissions fixes de carbone. Selon Satya, le processus de transition s'effectue en fonction des limites de capacité nationale et se réfère aux normes appliquées par les pays développés. Dans sa déclaration à Jakarta, mercredi, Satya a expliqué que la transition énergétique doit être progressive. L'Indonésie se tourne vers les énergies renouvelables, mais le charbon reste une source d'énergie compétitive et bon marché. Par conséquent, pour que l'Indonésie soit cohérente avec la réduction des émissions de carbone des centrales électriques au charbon, il est nécessaire de procéder à une co-combustion avec de la biomasse et à l'avenir avec une technologie de stockage de carbone. En outre, selon Satya, ses fonctions d'expert auprès du ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales pour la commercialisation et le transport du pétrole et du gaz constituent un mandat en sa qualité d'assister le ministre et le vice-ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales dans l'exercice de leurs fonctions qui sont conformes à la vision et à la mission du président et du vice-président de la République d'Indonésie, à savoir les points 2 et 5 d'Astacita sur l'autosuffisance énergétique et l'aval. Il a déclaré que sous la direction du président Prabowo, l'Indonésie développera de nouvelles énergies renouvelables et réduira sa dépendance aux combustibles fossiles. Il a déclaré qu'à l'an 2040, plus de 100 gigawatts de capacité énergétique sont construits, dont 75% proviendront des énergies renouvelables, 5 gigawatts du nucléaire et 20 gigawatts du gaz. L'ancien analyste de la commercialisation du pétrole et du gaz pour le groupe de travail spécial SKK du pétrole et du gaz, MIGAS, espère qu'avec le décret présidentiel du groupe de travail national sur l'aval et la résilience énergétique dirigé par le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, il pourra augmenter les investissements, l'aval et devenir un déclencheur de croissance économique, de création d'emplois et d'augmentation de la valeur ajoutée des produits de base indonésiens. Satya expliquait que l'Indonésie doit être capable de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris en 2030 et également celui de zéro émission nette NZE en 2060. La réduction progressive du charbon est importante, mais il doit y avoir une solution. Cédric, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Yeah.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Cuisine des Babat Gonso ou Trip de Gonso avec Maudrey. Sujetard, lors de votre voyage à Semarang, Java Central, n'oubliez pas de goûter aux différentes spécialités culinaires. Il y a des lumpia qui sont très populaires. Il y a aussi le babat gonso, un plat culinaire en goût unique, en tantan. Vous pourrez déguster ces délices culinaires le matin, l'après-midi ou le soir. Si vous visitez Semarang, vous pouvez vous arrêter dans plusieurs restaurants pour déguster ce plat de trip gonso. Le babat gonso ou trip gonso est généralement vendu par les vendeurs de riz frit babat. Les vendeurs de riz frit se promènent depuis le matin et se frayant un chemin. Certains traînent devant les ruelles ou dans les kiosques. Chers amis, le babat gonso est fabriqué à partir de tripes de bœuf bouillies jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Les tripes sont la muqueuse comestible de l'estomac du bétail. Une fois tendres, les tripes sont sautées ou rôties avec diverses épices. Les épices utilisées comprennent des échalotes, de l'ail, des piments et de la sauce soja sucrée. Une fois dégusté, ce plat est un vrai délice. La texture des tripes est douce avec un assaisonnement équilibré entre le piquant du piment et la douceur de la sauce soja sucrée. Le babat gonso sera encore plus délicieux s'il est mangé avec une assiette de riz chaud. En plus d'être délicieux, le babat gonso est également connu comme un aliment riche en nutriments, notamment en protéines provenant des tripes de bœuf. Déguster du babat gonso à Semarang sera une expérience culinaire à ne pas manquer. Essayez cette authentique spécialité culinaire de Semarang. Le prix est d'environ 20 000 et 30 000 de roupies par portion avec du riz blanc. Bonjour et tard, c'est tout, le magazine culturel.
jangan menjadi murung.
C'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Chers amis, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Étudiants de l'Université Gajah Mada remporte le concours ». De développeur Huawei RZ Pacific avec moi Audrey. Chargé tard, l'équipe d'étudiants du département de génie électrique et des technologies de l'information DTETI, faculté d'ingénierie Université Gajah Mada UGM Yogyakarta, a participé au concours des développeurs Huawei 2024 Asie Pacifique à l'Université Chulalongkorn à Bangkok en Thaïlande du 20 au 21 janvier. Lors de la compétition, les étudiants du DTETI ont rejoint les étudiants du département de génie mécanique et industriel DTMI au sein de l'équipe HyFlex. Lors de la finale, l'équipe HyFlex a remporté la première place du concours des développeurs Huawei 2024 à Asie-Pacifique pour son innovation. Après avoir concouru avec 662 220 équipes pour un prix total de $34,000 américains, au fond, l'un des membres de l'équipe a déclaré que l'équipe HyFlex a conçu des innovations basées sur des idées qu'ils ont eux-mêmes imaginées et étudiées. Ce jeu tard, dans cette compétition, chaque équipe développe des technologies de l'information et de la communication TIC pour trouver des solutions à des problèmes réels en utilisant la technologie cloud de Huawei. Toutes les équipes participantes sont divisées en catégories Enterprise Track et Student Track. Six lauréats ont été récompensés dans chacune des deux catégories après être passés par plusieurs étapes de sélection. Depuis la soumission des propositions, la présentation des démonstrations de solutions jusqu'à la compétition lors de la phase finale. Chers amis, lors du concours Huawei Developer Competition Asia Pacific de cette année, des six équipes de la catégorie Student Track sont des contingents de l'UGM. Outre HyFlex, une autre équipe est l'équipe Claudia qui se compose d'étudiants du département d'informatique et d'électronique FMIPA Université Gajah Mada UGM. Cette équipe a réussi à remporter la deuxième place. Bon chargé, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
tentang dirimu. Mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan pedih luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku harus mengisi rindu yang tak terbalas. Masih ada kecintaan untukku, walau hanya untuk kau kenal.
La diffusion étrangère de Radio République Indonésie présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes, charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme tronchon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
dekat dengannya di depan mataku. Aku terbakar hati saat melihatmu mesra-mesra dengannya di depan mataku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers amis, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, comme chaque vendredi, je vais vous présenter une chanson pop régionale du centre de Sulawesi, intitulée Sampesuvuroa. Chers amis, Sampesuvuroa signifie en langue Kaili, cousin et ami. Cette chanson est très populaire parmi le peuple Kaili qui habite dans la majeure partie de la province centrale de Sulawesi. Sampe Suvuroa raconte l'histoire d'un jeune homme qui voyage pendant 20 ans à la recherche d'une vie meilleure. Après un long moment, il rentra chez lui avec un cœur plein de nostalgie, espérant retrouver ses cousins et amis décédés. Pour chercher tard, voici la chanson intitulée Sampe Suvuroa, chantée par Ungu. Bonne écoute.
Indonesia.
Haruskah untuk kamu
Maukah kamu yang memang sengaja tak mau tahu? Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diri. Penjara di dalam mimpi-mimpimu. Haruskah untuk kamu? Entah apakah kamu sadari ataukah kamu yang diriku, hidup dalam hidupku. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku teruskan lagi. Lebih baik luka saat ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupku. Sungguh ini bukanlah diriku.
Chers auditeurs, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.
Hello VOI listener, how are you today? I hope all of you are doing great. I'm Rahma. I will accompany you in the 60 minutes ahead with various interesting English programs from Voice of Indonesia. First, we present you the news, followed by commentary, various information, as well as entertainment. Now let's begin with the news, so stay with us, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world, only on voinews.id or shortwave frequency 3325 and 4755 kHz and RRI Digital Mobile App. You are still listening?
Here's the news read by Ray. First, the headline. President Prabowo trusts Malaysia's probe into migrant worker shooting. Minister Sugiono highlights commitment to strengthen Indonesia-United Arab Emirates ties. And now the news in detail. The first news. Indonesian President Prabowo Subianto said on Thursday where he believes that Malaysia will conduct a proper investigation into the shooting of five Indonesian migrant workers by Malaysia Maritime Enforcement Agency officers in Selangor last week. He feared that the issue was discussed during his recent meeting with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim in Kuala Lumpur. A group of Indonesian migrants was shot at by APMM officers while reportedly attempting to leave Malaysia illegally through the waters of Tanjung Ru, Selangor on January 24, 2025. One worker was killed and four others were injured in the accident. The Malaysian authorities claimed the shooting happened when the five Indonesian migrant workers tried to resist arrest. However, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs denied this version of events. The Ministry's Director of Protection of Indonesian Citizens, Judha Nugraha, emphasized that there was no resistance from the migrants. Based on the testimonies of the four survivors, who are currently being treated at Klang Hospital in Malaysia, two of the four injured Indonesians were in stable conditions when they provided a chronology of the shooting to representatives of the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur. Hence, Nugraha said, Indonesia has demanded a thorough investigation into the shooting, including the possibility of excessive use of force by the Malaysian authorities. Moving on to the second news. Indonesia Minister of Foreign Affairs Sugiono reiterated Indonesia's commitment to enhancing cooperation with the United Arab Emirates by addressing and eliminating obstacles and barriers in their partnership. There are several obstacles and barriers in the partnership, especially in the commercial sector and the business sector, where sometimes bureaucracy is an obstacle. He stated at the Indonesia-UAE Third Roundtable discussion in Jakarta on Thursday, during a meeting attended by UAE Energy Minister Suhail Al-Mazrui. Minister Sugiono also remarked that currently Indonesia is aiming for 8% economic growth rate. To achieve this target, the government is implemented good governance in the business.